Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Mélomanie pour ce nouveau numéro du magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale sur Radio Présence. La semaine passée, nous avons présenté Voyage d'automne, l'opéra de Bruno Mantovani, dont la création mondiale a eu lieu au Capitole vendredi dernier. Sachez que cette œuvre a été autant appréciée par le public que par la critique. L'ultime représentation est donnée jeudi, le 28 novembre, à 20h. Il reste des places, alors je vous invite très chaudement à aller découvrir cette production qui fera date à n'en pas douter dans l'histoire de l'Opéra National du Capitole. À part ça, c'est toujours l'effervescence sur le front d'actualité musicale classique et nous allons essayer de vous en rendre compte le mieux possible avec l'ami Serge Chosy, fidèle chroniqueur de cette émission, mais aussi chroniqueur pour les sites Classique Toulouse et Culture 31, ainsi que pour le journal La Voix du Midi. Serge et moi, nous recevons deux invités d'honneur aujourd'hui, le compositeur Thomas Moreau, pour un CD de mélodies françaises paru sous le label Bellary. Il est accompagné de Mathieu Aramburu, le directeur de ce label. Ce CD porte un joli titre, « Les beaux soirs à Longwy », emprunté à un poème de François Mauriac. Dans l'immédiat, nous allons revenir sur l'actualité musicale récente avec Serge. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue à vous deux, et à vous trois même, et en particulier à Thomas Moreau et Mathieu Aramburu. Aramburu, on dit d'ailleurs.
Alors, originellement, on dit Aramburu comme vous faites bien de le faire, et ça a été francisé, c'est maintenant Aramburu.
Alors, on va le prononcer à la française. Pour tous les deux, c'est la première à Mélomanie. Très heureux de vous recevoir. Nous allons d'abord revenir sur la 9e édition de Musique au Palais, le festival présidé par Serge Krichewski. Il a eu lieu le week-end des 16 et 17 novembre. Cette année, c'est la première école de Vienne qui était à l'honneur dans le superbe grand salon du Palais Niel. Ça a été vraiment une très belle édition, Serge, avec 6 concerts qui ont presque tous affiché complet. Ouais. Il a même fallu ajouter des sièges pour certains d'entre eux.
Exactement. Alors, il s'agissait évidemment de concerts qui étaient dans le beau salon du Palais Niel qu'on ne visite pas ordinairement. Donc, on a double chance d'aller écouter de la belle musique et en même temps de visiter un lieu vraiment emblématique, un lieu particulier, très raffiné. Cette 9e édition, donc, avait pour titre, comme vous l'avez dit, la première école de Vienne.
C'était Lumière sur l'école de Vienne.
Oui, exactement. Et donc, il y a eu les 3 concerts du samedi, 3 concerts du dimanche. Alors, à commencer par le premier concert du samedi 16 novembre, à 14h30, qui était intitulé « Sonate du Haut Quatuor ». Et là, pour ce concert, Serge Krichewski, qui est le directeur musical de ce festival, avait invité un groupe de jeunes musiciens dont la plupart d'entre eux n'ont pas encore 20 ans, ce qui est vraiment une belle opération. Alors il s'agissait de Léo Maxime Fabrice au piano, Luna Yenli Carbonel au violon, Sixtine Le Goff à l'alto, Antoine Moulinès au violoncelle et Victoria Creighton à la flûte. Et donc ils ont joué tout un programme vraiment intéressant, avec d'abord la 5e sonate pour violoncelle et piano de Beethoven, puis le fameux duo avec deux lunettes obligées du même Beethoven, une pièce assez ironique.
Ils ont joué sans les lunettes.
Et là, oui, j'avais remarqué qu'aucun des deux ne portait lunettes. Ça, c'est pas bien du tout. Et puis, un mouvement, un rondo d'une sonate pour alto et piano de Johann Nepomuk Hummel, qui était une sorte de concurrent de Beethoven. Et pour terminer, le quatuor pour flûte, violon, alto et violoncelle numéro 1 de Mozart, une œuvre assez célèbre, assez souvent jouée en musique de chambre. Et là, on a pu admirer en particulier la belle sonorité, le grand talent de la flûtiste.
Dont il magnifique.
Souligner vraiment oui. l'effrasé, la beauté. Donc très très bien. Deuxième concert, c'était à 16h30 et il était intitulé Piano 1, parce que le dimanche, il y aura un piano 2. Cette session donc réunissait deux pianistes, avec d'abord Constant Després, qui est un pianiste qui maintenant a 18 ans, mais que l'on a connu lorsqu'il n'avait que 12 ans, à
oui,
peu près.
Oui, oui, on l'a même vu à l'émission Prodige, il n'en avait que 9, je crois.
Oui, oui, absolument. Et puis donc Vincent Martinet, qui est un grand habitué de ces musiques au palais. Alors Constant Després a joué la fantaisie en ré mineur de Mozart, la Köchel 397, et ensuite, vraiment, avec beaucoup d'engagement, la sonate numéro 26, Les Adieux, très fameuse sonate de Beethoven, évidemment. Et je dois dire ceci, malgré des conditions acoustique un peu désagréable puisqu'il y avait de tout jeunes enfants.
Il y avait pas mal d'agitation.
Qui s'agitaient dans la salle, tout près même au premier rang. Oui. Et donc c'était assez désagréable pour lui. Mais
non, il ne s'est pas laissé déstabiliser du tout.
Pas du tout.
Mais il a fait une très très belle prestation.
Le mérite n'en est que plus grand. Et puis Vincent Martinet a joué donc une sonate de Haydn, l'Oboken 1646, et puis la première des sonates de Beethoven, la sonate en fa majeur, dont il a vraiment souligné l'aspect volontaire et même percussif. Donc entre ces deux prestations pianistiques, il y avait une sorte d'intermède avec Luna Yenli Carbonel au violon et Sixtine Le Goff à l'alto, un intermède avec le premier mouvement du duo pour violon et alto numéro 2, qui est une pure merveille de Mozart. Ensuite, dernier concert du samedi, 18h30, c'était le Quatuor du Capitole. Alors là, on est en terrain connu, puisque ce Quatuor du Capitole, eh bien, il réunit Christik Jezi, violon super soliste de l'Orchestre National, Eleonore Hepp, qui est violoniste, Laura Esminger, alto, et Sarah Yansou, violoncelle, bon, des gens que l'on connaît et que l'on admire toute l'année dans les concerts de l'Orchestre du Capitole. Et là, vraiment, on n'a plus qu'admirer la cohésion, la précision du jeu. Ça a été d'une grande beauté. Je crois que ça a été peut-être le plus beau concert de tout le festival. Hein. Donc, avec d'abord l'Adagio et Fugue en ré mineur de Mozart, d'une intensité incroyable, puis le quatuor à cordes dit Le Cavalier de Joseph Haydn, avec une architecture parfaitement dominée par les interprètes, et puis le quatuor numéro 9 de Beethoven, le dernier des trois quatuors dédiés à Haydn, qui vraiment, c'était l'apothéose. Donc vraiment, on a admiré le déroulement de ce concert.
Eh bien, pour rappeler combien cette première journée du Festival Musique au Palais fut belle et de haute tenue musicale, nous allons pouvoir réécouter le Quatuor du Capitole, et ce, grâce à un enregistrement de très bonne qualité que m'a fourni Jean-Marie Mathieu. Il a enregistré tous les concerts de cette édition 2024, et notamment le quatrième mouvement vivace du Quatuor à cordes en sol mineur Le Cavalier de Joseph Haydn, interprété donc par le Quatuor du Capitole. Thank you. Le Quatuor du Capitole jouait le quatrième et dernier mouvement vivace du Quatuor à cordes en sol mineur, le Cavalier de Joseph Haydn, l'une des trois pièces au programme du troisième et dernier concert de l'après-midi du samedi 16 novembre. Autour maintenant de la seconde journée de cette 9e édition de Musique au Palais, celle du dimanche 17, le premier concert à 14h30 nous a permis de découvrir le trio Monte Cristo, toute jeune formation où l'on retrouvait le pianiste Vincent Martinet, associé à une violoniste et un violoncelliste. Très belle prestation de ces trois musiciens.
Ah, absolument magnifique, c'était un vrai trio. Ce n'était pas trois solistes qui jouaient accidentellement ensemble. Il y avait vraiment une cohésion absolue avec ce trio qui a été créé en 2022. Donc c'est tout,
je crois que vous êtes camarades au CNSM de Paris, tous les trois.
Voilà. Il est formé par la violoniste Marie-Astrid Hulot, le violoncelliste Jean-Baptiste Mézières et donc le pianiste Vincent Martinet, que l'on connaît bien. Ils ont présenté un programme qui, cette fois, a ajouté le nom de Franz Schubert, qui n'est en général pas considéré comme faisant partie de la première école de Vienne.
Mais oui, enfin, alors, certains le rattachent quand même.
Bon. On le rattache. Alors, ils ont joué d'abord le trio numéro 39, Die Zigane de Haydn, qui passe du sourire à l'effervescence, avec un rondo à longarez et pétillant au possible, magnifique. Et puis le trio opus 70 numéro 1, baptisé Les Esprits, trio célèbre aussi de Beethoven, avec cet allegro vivace con brio passionné, vraiment magnifique. Et enfin, leur concert s'achevait par le Notturno Deutsch 897 de Schubert, vraiment une pièce très émouvante, oui, qu'ils ont joué avec beaucoup de sensibilité.
Alors, je précise juste que Marie-Astrid Hulot est la super soliste de l'Orchestre de l'Opéra de Bordeaux.
Oui, oui, exactement.
Il n'y a pas,
oui,
de hasard.
Hein. Ah oui, oui, c'est très bien de le signaler. Donc, le deuxième concert de ce dimanche après-midi, à 16h30, c'était Piano 2. Alors, il y a eu un changement là aussi d'interprète, puisque Ariel Sirat, qui devait participer à ce concert, et qui est là depuis...
C'est un pilier depuis les débuts. Hein.
Oui, oui, qu'il a même cofondé ce festival. Donc, a dû renoncer pour un petit problème à la main, d'ailleurs. Et il a été remplacé par le pianiste Laurent Molinès, qui ouvrait la session avec beaucoup d'autorité et de vigueur dans la sonate en ut majeur Köchel 330 de Mozart, puis ensuite la sonate opus 78 dite à Thérèse, et les 32 variations en ut mineur, les deux de Beethoven, donc, avec une même autorité. Et puis ensuite, le deuxième pianiste, c'était François Schwarzentruber, qui a participé aussi à la plupart des...
On le voit depuis déjà quelques années.
On le voit très souvent.
En fait, ça devait être le concert des grands amateurs, puisqu'il y a des musiciens grands amateurs qui participent, c'est la formule du festival.
Donc là, il a joué d'abord avec légèreté et fantaisie quelques bagatelles de Beethoven, les numéro 1, numéro 2, numéro 5 et numéro 7 de l'opus 33, donc de Beethoven. Puis le rondo en la mineur, le Köchel 511 de Mozart, plein de tristesse et de nostalgie, de mélancolie. Et puis la sonate de Haydn, la 1652, qui marque un peu, enfin, un retour vers la fantaisie et même l'humour. Hein, on connaît l'esprit de Haydn. Voilà, c'était le concert du milieu d'après-midi. Et le tout dernier, alors on changeait à la fois de type d'instrument et de répertoire, puisqu'il s'agissait d'un récital de mélodies et d'airs d'opéra.
Ah oui, ça manquait quand même dans la programmation première école de Vienne.
Donc, l'instrument, cette fois, c'était la voix humaine. Deux personnalités qui sont uniques à la scène comme à la ville.
Selon la formule.
Donc, selon la formule. Oui, voilà, qui venaient. Alors, deux grands chanteurs, oui, hein, oui, vraiment. Philippe Estef, qui est un baryton au très beau timbre, belle voix. Et puis, l'excellente Clémence Garcia, qui est une soprano à la voix lumineuse, hein, oui, oui, que l'on entend assez souvent, avec divers ensembles, aussi bien l'Orchestre Les Passions que...
Beaucoup dans le baroque, tout de même.
Oui, oui, beaucoup dans le baroque. Mais là, ce n'était pas du tout dans le baroque, évidemment. D'abord, on a entendu une longue liste de 8 leaders de Beethoven chantés par Philippe Estef. Et puis ensuite, en alternance avec Philippe Estef, donc Clémence Garcia a abordé le monde raffiné du chant mozartien, hein, avec notamment ce qu'elle a chanté magnifiquement, le fameux Abend Empfind, donc Impression du soir. Et puis l'une des seules mélodies de Mozart en français, dans un bois solitaire et sombre, c'était vraiment très très beau. Et puis elle a chanté le seul Lied de Schubert qui était au programme, c'était le sublime Im Frühling, au printemps. Un grand moment, un beau moment qui s'est conclu par alors une exploration de la flûte enchantée en quelque sorte, puisque Philippe Estève a d'abord chanté les principales interventions du personnage Papageno dans la flûte enchantée, et puis il a été rejoint par sa Papagena, qui était donc Clémence Garcia. Une sorte de badinage musical qui a été chanté et joué d'ailleurs,
ah oui,
avec beaucoup de malice scène, par les deux interprètes. D'ailleurs, le thème a été repris musicalement par le violoncelle d'Antoine Molinès et le piano des Lois Urbains, dont il faut saluer la qualité de l'accompagnement.
Magnifique.
C'est vraiment une grande musicienne, et qui ont joué les variations opus 66 composées par Beethoven sur le thème Ein Mädchen oder Weibchen, c'est-à-dire une fille ou une femme, une petite fille, une petite femme, extrait de la flûte enchantée. Donc. Et puis alors, ils ont eu un tel succès, surtout après le fameux duo Papa, Papa, etc. Vous connaissez,
Papageno,
Papageno. Et donc, le succès était tel qu'ils ont dû revenir, c'est exceptionnel, dans les concerts de musique au palais, et ils ont chanté un autre duo, mais celui-là extrait du Don Giovanni de Mozart, La Ci Darem la Mano, duo célèbre là aussi. Donc ça marquait la réussite incontestable de ce 9e festival. On peut souhaiter un 10e numéro de la même qualité.
Pour marquer le coup, je pense qu'il sera sans doute de très grande qualité. Absolument. Aussi dans un peu moins d'un an maintenant. Pour illustrer la programmation de cette seconde journée de concert et en terminer avec cette très belle 9e édition de Musique au Palais, nous allons écouter Clémence Garcia et Philippe Estève dans le délicieux duo entre Papageno et Papagena à l'acte 2 de la flûte enchantée, un enregistrement que nous devons encore à Jean-Marie Mathieu. Entre Papageno et Papagena, l'acte 2 de la flûte enchantée, interprété avec beaucoup de charme et d'espièglerie par Philippe Estève et Clémence Garcia, accompagné par la pianiste Éloise Urbain. C'était le dimanche 17 novembre au Palais Niel, lors du concert de clôture de la 9e édition de Musique au Palais. Et je remercie encore Jean-Marie Mathieu de m'avoir fourni ce précieux enregistrement. On enchaîne avec l'Orchestre National du Capitole, qui était en concert samedi à la Lograin, sous la direction de Tarmo Peltokoski et devant une salle archi-comble, comme c'est le cas désormais à chaque fois que le jeune chef finlandais tient la baguette. C'était un concert d'autant plus attendu que le soliste de cette soirée n'était autre que Christy Jessy, le violoniste super soliste de l'orchestre.
de nouveau au premier plan, donc en quelque sorte. Il faut
c'était,
dire
c'était
que
sa semaine.
C'était sa semaine. Oui. Initialement, ce n'était pas prévu comme ça, puisque la soliste de ce concert devait être Patricia Kopaczynskaya, et elle devait jouer le premier concerto pour violon et orchestre de Shostakovich. Et puis, en raison de problèmes de santé, elle a dû annuler. Et donc, on a fait appel au super soliste de l'orchestre qui a souhaité jouer, par contre, le concerto pour violon en ré majeur de Piotr Ilitch Tchaïkovski, concerto qu'il possède parfaitement. On a eu droit vraiment à une rare et belle interprétation sous la direction à la fois attentive, précise et colorée de Tarmo Peltokoski. Alors, il faut dire que l'histoire d'amour entre les musiciens et lui, et le nouveau chef,
ne se dément pas.
Se poursuit. Oui. Hein, c'est vraiment. Il l'adore. D'ailleurs, à la fin du concert, ils l'ont acclamé. Hein. Et puis, on comprend pourquoi. Parce que vraiment, c'était magnifique. Alors, la première qualité de la direction et du violoniste, c'était que l'équilibre entre le soliste et l'orchestre était parfait. Jamais le soliste n'a été dominé par l'orchestre. C'était vraiment. Parfait. Alors, toutes les difficultés techniques de cette partition, alors je le rappelle, qui a été déclarée impossible à jouer par les premiers exécutants, eh bien là, oui, il a magnifiquement joué. Et la virtuosité n'empêchait pas la profonde musicalité de son jeu, avec vraiment des moments magnifiques, avec la richesse des phrasés qu'il a choisis pour le mouvement central. Très sensible, très beau. Et dans le final, alors là il a réalisé de véritables prouesses, notamment dans les cadences. Il a joué ses cadences de manière incroyable. L'échange a été parfait avec l'orchestre. Et donc, ça a été une explosion jubilatoire dans la salle, évidemment. Il a été très applaudi. Mais il n'a pas donné de bis. Bon, on le comprend, hein. Et puis, on a pu remarquer que tous les musiciens de l'orchestre ont acclamé leurs collègues.
Leurs camarades.
Leurs camarades de pupitre. Voilà, la seconde partie. Alors là, on franchissait une étape dans l'évolution musicale, puisque la première œuvre de cette deuxième partie, c'était la sonate pour piano opus 1 d'Alban Berg, mais dans une orchestration du compositeur néerlandais Theo Verbey. Alors on peut se dire, une œuvre pour piano seul pour un orchestre, et c'était un orchestre énorme. C'était pas un petit orchestre de chambre, c'était l'ensemble de l'Orchestre National du Capitole. Et là, ce passage, ma foi, s'avère non seulement radical, mais très riche. On se rend compte que vraiment les couleurs instrumentales apportent à l'œuvre, cette œuvre qui est l'opus 1 hein, d'Alban Berg, donc une œuvre de prime jeunesse. Et donc c'était très beau. Alors moi j'ai eu l'impression, en écoutant cette œuvre à l'orchestre, qu'elle annonçait un peu les déploiements orchestraux qu'Alban Berg va développer dans Wozzeck. On a l'impression d'entendre quelques extraits de Wozzeck, donc c'était vraiment une pure merveille là aussi. Et puis la dernière œuvre, alors c'était une œuvre jouée dans son intégralité, dans son orchestration, La nuit transfigurée d'Arnold Schoenberg. Mais alors Arnold Schoenberg avait d'abord composé pour un sextuor à cordes, mais il a lui-même transcrit ça pour orchestre à cordes. Et là aussi, l'effectif des pupitres à cordes était énorme. C'était vraiment une impression incroyable. On était dominé en quelque sorte par les déploiements de l'orchestre. Alors on sait que cette œuvre est inspirée d'un poème de Richard Dehmel, qui était un ami d'ailleurs de Schoenberg. Autre chose qui a été intéressante, c'est que l'éclairage a varié au cours de l'exécution de cette œuvre. Parce qu'il y a toute une première partie d'angoisse, de crainte, et à partir du moment où l'amant pardonne à son amante,
la lumière revient.
Voilà, et la lumière est revenue. C'était vraiment très impressionnant et très bien fait et magnifiquement exécuté, évidemment, avec notamment les parties basses de l'orchestre d'une présence impressionnante. Il y avait quand même 8 contrebasses pour jouer La nuit transfigurée. Et alors, lorsqu'il a été acclamé, Tarmo Peltokoski, à la fin, il a attrapé la partition et il l'a brandi fièrement au-dessus de sa tête pour dire « c'est la partition qu'il faut acclamer ». Ça a été un très beau moment avec cette page historique dans l'évolution quand même de l'écriture musicale.
Et vous avez remarqué les hasards du calendrier. Le week-end précédent, c'était la première école de Vienne. Et là, on a eu deux œuvres de deux des piliers de la seconde école de Vienne.
Bon. Oui, absolument. Donc, un très beau concert. Très, très beau concert.
Eh bien, nous allons pouvoir écouter de nouveau Christique Jessy dans une interprétation du concerto pour violon de Tchaïkovski. C'est le début du deuxième mouvement, Canzonetta. le deuxième mouvement Canzonetta du concerto pour violon de Tchaïkovski avec Christy Gessy en soliste. Les prochains concerts de l'Orchestre National du Capitole à la Halle aux Grains sont programmés ces samedis 30 novembre à 20h et dimanche 1er décembre à 16h où il accompagne la projection du film Le Dictateur de Charlie Chaplin sous la direction de Timothy Brock. Fin de cette première partie d'émission, une courte virgule musicale avant de nous retrouver dans quelques secondes pour l'agenda de Mélomanie avec Serge Chauzy et nos invités d'honneur Thomas Moreau et Mathieu Arambourg. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
La seconde partie est l'agenda de Mélomanie avec Serge Chauzy, Thomas Moreau et Mathieu Arambourg que nous recevons pour le CD de Mélodie Française, composé par Thomas Moreau et qui vient de paraître tout récemment sous le label Bellary dirigé par Mathieu Arambourg. Les Beaux Soirs à Longhi, c'est le titre, le joli titre de ce disque dont nous allons parler avec vous dans quelques minutes. Mais comme c'est la première fois que vous venez à Radio Présence, Thomas Moreau, je pense que nos auditeurs ont besoin de mieux vous connaître avant de découvrir la musique que vous composez. Vous êtes venu de loin, du Pays Basque, pour participer à cette émission. Et vous avez des origines basques, mais vous êtes né à Bordeaux. Et c'est dans cette ville, je crois, que vous avez fait vos études musicales.
En partie, oui. Au Conservatoire de Bordeaux d'abord, puis au Conservatoire de Bayonne. Mais ouais, j'ai commencé au Conservatoire de Bordeaux avec classe d'écriture, avec Marc Jauré-Guibéry, donc en harmonie et contrepoint. Et puis j'ai continué, j'ai eu un blanc de quelques années parce que j'ai fait la fac de droit aussi pendant, avant et après. Donc j'ai un master de droit pénal complètement incongru dans une vie de compositeur. Mais voilà, bon, j'ai eu cette fantaisie-là. Et puis j'ai continué mes études au Conservatoire de Bayonne. Alors c'est un peu le sens inverse. D'habitude, on fait Bayonne puis Bordeaux. Moi, je suis allé dans l'autre sens. Et j'ai continué les classes d'écriture avec des professeurs admirables, Peyo Sabalette et Joël Mera, que je salue, qui sont devenus des amis et qui sont de très très grands musiciens. Et puis aussi de la direction de chœur et du chant, je me suis un peu diversifié. Et alors j'ai une grande appétence pour la musique vocale, parce que comme vous le disiez, j'ai des origines basques, mais également corse par mon grand-père. Et
oui, en fait,
je suis
difficile tombé à voilà, échapper à un destin de chanteur.
Dans la marmite polyphonique depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours entendu chanter dans la famille, dans les fêtes, tout ça. Donc mes premiers émois musicaux de la prime enfance venaient de la voix et donc de la polyphonie de ce chant qu'on entonnait après les repas ou pour les fêtes, tout ça, quelque chose de très convivial et de très partagé. Et ma foi, c'est... ça qui, au bout d'un certain âge, est venu me retirer par la manche, en fait, et voilà, d'abandonner mes études universitaires pour me consacrer à la musique, voilà.
Bariton, pianiste, alors on va parler de Mélodie Française, bon, a priori, les deux vont bien ensemble, mais vous avez aussi fondé un quatuor vocal,
Le Plisson. Oui, Le Plisson, hein. Tout à fait, à Bordeaux, en 2002, avec d'autres étudiants du Conservatoire de Bordeaux, parce que j'avais intégré le Conservatoire dans le but bien arrêté de monter un quatuor vocal, puisque je venais de découvrir l'année auparavant l'ensemble Jeannequin, dont ma sœur m'avait offert mon premier disque.
On les connaît bien, Toulouse.
Voilà, mais coup de foudre immédiat pour cette musique. La musique Renaissance, pour moi, c'est vraiment la confluence entre la musique traditionnelle, c'est-à-dire où l'on chante ensemble parce qu'on est content d'être ensemble et de boire un coup, et la musique savante, parce que c'est redoutablement écrit, 4, 5, 6 voix, par des compositeurs de métier, et en fait, cette alchimie, cette rencontre entre ces deux, on va dire, la rigueur du contrepoint, mais en même temps, l'enthousiasme du chanter ensemble, moi, ça m'a vraiment transporté, et donc là, j'ai dit, bon, la fac, j'arrête, ça sert à rien, et je suis rentré au Conservatoire de Bordeaux avec donc cette idée de monter un quatuor. Les membres étaient Caroline Batte en soprano, Alexis Dufort de Bordeaux, là, qui était en ténor, et puis Sophie Lourenço, qui maintenant est professeure au Conservatoire de Bordeaux, qui était en alto. Voilà, on avait monté ce groupe à l'époque, puis moi je l'ai quitté au bout de 2-3 ans pour aller vers d'autres horizons, et Jean-Paul Balsac m'avait remplacé.
Vous avez aussi fondé un sextuaire d'hommes à Bayonne,
tout à fait. L'idée, c'est de reprendre des chants traditionnels, donc des choses que moi j'ai entendues gamin, et de les arranger à 6 voix d'hommes, alors avec une écriture plus moderne, qui va questionner plusieurs aspects, mélodiques, contrapuntiques, tonaux, etc. Voilà, on s'amuse bien avec Exaccord.
Puis vous composez et vous arrangez pour divers ensembles, on en arrive à la composition, et donc à ce CD, Les Beaux Soirs à Longhi, est-ce que c'est le premier d'ailleurs? Pas tout à fait.
Non, c'est pas le premier CD, puisqu'il y a 3 ans de ça, j'en ai fait un avec justement le quatuor vocal Le Plisson, sur des compositions que j'avais écrites en style Renaissance, donc du 4 voix avec parfois un peu de luth. La partie de luth était tenue par Pablo Marchenet. Et là, pour ces mélodies, l'enregistrement a eu lieu en août 2023, donc c'est mon deuxième CD avec une toute autre équipe, là sur des compositions vraiment voix-piano.
La Mélodie Française, c'est quelque chose qui vous trottait dans la tête depuis longtemps?
Depuis longtemps, peut-être, oui, puisque là, vous avez souligné qu'il y avait une pièce de Georges Fourest. C'était hors antenne, pardon. Mais c'est la toute première mélodie que j'ai composée. J'avais 21, 22 ans, j'étais au conservatoire de Bordeaux. J'avais pas spécialement d'attrait, enfin, je veux dire, plus que la polyphonie, mais ça s'est fait petit à petit, une mélodie en entraînant une autre. Et donc, au bout d'un moment, je me suis retrouvé avec de quoi faire un disque, en fait. Et c'est ça qui m'a vraiment motivé. L'expérience du premier disque m'avait plu. Et je pensais qu'on pouvait aller plus loin en termes de son, en termes de qualité, en termes de niveau. Et alors, par un jeu de rencontres, j'ai rencontré Mathieu Arambourg. J'avais demandé à Joël Méra, donc professeur au conservatoire de Bayonne et ami et grand compositeur et orchestrateur, de me conseiller un ingénieur du son qui serait intéressé par ce projet. Il m'a donné le contact de Mathieu. On se connaissait pas, mais voilà, on a commencé par échanger au téléphone et puis finalement, voilà, on s'est retrouvé à faire cet enregistrement.
Nous allons évidemment nous plonger dans le programme de ce CD avec vous, mais avant cela, nous allons écouter la mélodie qui lui donne son titre, Les Beaux Soirs à Langui. Composée donc sur un poème de François Mauriac, extrait du recueil L'Adieu à l'adolescence, elle est chantée par Agnès Denelin, accompagnée par Damaris Alcunar. Les Beaux Soirs à Langui, mélodie composée par Thomas Moreau sur un poème de François Mauriac, extrait du recueil L'Adieu à l'adolescence, chanté donc par Agnès Denelin, accompagnée au piano par Damaris Alcunar. C'est cette pièce qui donne son titre au CD. Alors peut-être un mot sur ce texte, parce que si Mauriac est évidemment célèbre pour ses romans, son œuvre poétique est beaucoup moins connue. Pourquoi vous l'avez choisi, en dehors du fait qu'il était bordelais comme vous ?
Alors, c'est surtout pas parce qu'il est bordelais que je l'ai plaisante. Choisi, ça, c'est des considérations qui ne me parlent pas forcément. Non, ben, je vais faire une réponse idiote de poète, mais parce que c'est beau. Hein, parce que je suis tombé sur des poèmes de Mauriac dans des anthologies, enfin dans une seule anthologie, on va dire, de poésie. Et en fait, j'ai voulu aller voir un peu plus loin, donc j'ai eu ce recueil, L'Adieu à l'adolescence, et ce poème m'a de suite captivé, je sais pas, il y a déjà peut-être une quinzaine d'années, et je m'étais dit, ça, je le mettrai en musique un jour. Enfin, il y avait une musicalité dans ce poème, et c'est là où ça devient vraiment chouette, c'est qu'en fait, quand j'ai commencé à travailler dessus, les choses se sont agencées de manière très claire en termes de formalisme. Alors, le poème n'est pas très formel, puisque c'est des paquets d'alexandrins, c'est pas un sonnet, c'est pas une balade, c'est pas des choses très très rythmées. La musique est venue d'un coup, en fait, elle a épousé complètement une forme qu'on pouvait détacher du poème. En fait, ça, les choses se sont mariées vraiment les unes aux autres. avec une grande simplicité, c'est très très agréable. Et je me dis, bon, ben voilà, c'est que la musique doit bien coller sur le texte, parce qu'on a vraiment ce découpage qui n'était pas prévisible au départ. Et en fait, en travaillant la musique, c'est là que les choses se sont bien bien agencées.
Alors, on va parler justement de votre manière de composer, parce que pour composer une mélodie, il faut partir d'un texte, d'un poème. Donc, il faut choisir des poèmes au préalable. C'est le texte qui est préexistant à la musique. Sur quels auteurs s'est porté votre choix concernant les pièces de ce CD? Et puis surtout, pour quelles raisons?
Alors, ben, je vais prendre plaisir à vous contredire. C'est pas forcément du texte qu'on part, c'est parfois de la musique, puisque parfois j'ai quelque chose dans les doigts ou dans la tête que je commence à développer. Et si ça m'intéresse et si je sens qu'il y a un potentiel, je me dis, ben, quel texte pourrait bien aller avec cette musique? Alors, il se trouve que j'ai lu beaucoup de poésie dans ma jeunesse, donc j'ai un petit répertoire dans ma tête et une bonne bibliothèque de poésie. Et donc, quand j'ai une musique dans la tête, je cherche un peu quel texte pourrait aller, ou sinon, effectivement, je pars du texte. Quels auteurs? Ceux qui me plaisent, les textes qui me plaisent. J'ai pas de dogmatisme esthétique ou de chapelle. Je suis juste moins sensible à la poésie, on va dire, du 17e, du 18e, où je trouve qu'il y a eu peu d'inventions et finalement plutôt des choses genre épigrammes, poésie de cour, tout ça. Mais j'aime beaucoup le Moyen-Âge, la Renaissance, le 19e et puis après le 20e. Je prends un texte quand il me plaît, quand il est beau et quand je me dis il y a moyen d'en faire quelque chose musicalement. Et parfois, je prends des textes qui ont déjà été mis en musique. Par exemple, l'adieu a été chanté par Léo Ferré, je le savais pas, j'ai découvert après avoir fait ma version. Oui. Je découvre aussi que Déodat de Sévérac a fait une version de
Le ciel est par-dessus le toit.
Le ciel, ouais, exactement, voilà, que je ne connaissais pas non plus. Voilà, ouais, et, je prends un texte qui me plaît, je me dis, ben, voilà, je fais quelque chose avec.
Oui, alors je vais donner la liste un peu des auteurs que l'on trouve sur ce CD, il y en a beaucoup. Alors il y en a qui sont très connus, donc François Mauriac, Louis Aragon, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Guillaume Apollinaire, Alfred de Musset, et puis... Il y en a de beaucoup moins connus, notamment Georges Forest, qui lui est connu, pour certains lecteurs en tout cas, pour ce livre fabuleux dont le titre est La Négresse Blonde. Bon là, c'est pas sur La Négresse Blonde que vous avez composé, mais alors comment il est arrivé jusqu'à vous, Forest?
Il est arrivé par l'intermédiaire du Chat Noir, parce que je suis un grand fan du cabaret du Chat Noir à Paris. Je lisais énormément de Chat Noiriste quand j'avais 20-21 ans, c'était vraiment une fascination que j'avais pour ces auteurs, et pour ce, on va dire, ce côté très truculent de Rodolphe Salis, qui mélangeait un peu n'importe quoi et qui faisait une soupe artistique avec de briques et de brocs, et des choses très pertinentes et des choses complètement rock'n'roll. C'est là que j'ai découvert Georges Fourré ou Forest. Et ce qui m'avait plu aussi, c'est qu'il était juriste, il était avocat. Moi aussi, je sortais de fac de droit. Et il avait noté sur ses cartes de visite « avocat loin la cour d'appel ». J'avais beaucoup aimé le trait.
Oui,
le trait
pas près la cour d'appel.
Non, loin la cour d'appel, parce qu'il était plutôt au bar, lui, à boire des absinthes plutôt qu'à plaider. Alors, comment je suis venu à lui? Pareil, anthologie du Chat Noir. Pour la petite histoire, ce poème de Georges Fourré ou Forest, bon, moi je dis Fourré, comporte deux strophes et un envoi. La troisième strophe, je l'ai rajouté en fait de moi-même pour que l'équilibre de la balade soit complet. Donc en respectant les règles de la balade, en respectant les rimes, etc. Je me suis amusé aussi, c'est ma petite contribution, on va dire, littéraire à ce CD.
Alors il y en a d'autres qui sont assez connus aussi, tout de même, José María de Heredia, Benjamin Perret, Tristan Corbière.
Oui.
Alors, auteur d'un unique recueil, mais quel recueil, Les Amours jaunes, formidable. Hein. Alors, lui, il était breton.
Tout à fait, et il est mort à Roscoff, si je n'ai pas de
absolument, je crois qu'il est né à Morlaix. Mort, il n'avait même pas 30 ans. C'est très troublant parce qu'il est mort en 1875, l'année de la naissance de Ravel. Et quand on voit les photos de Ravel jeune et de Corbière, ce sont deux sosies. C'est vraiment extrêmement troublant. Et puis, nous avons donc beaucoup moins connu Henri J.M. Levé.
Alors ça, je vais en parler.
Poète diplomate. Alors, il y a beaucoup de poètes diplomates parmi les auteurs français, mais alors, lui, pas le plus connu.
Non, mais j'en parle avec délectation parce que Henri Levé, on va dire, c'est une espèce de comète dans l'histoire de la poésie. Il est mort à 30 ans, lui aussi, de tuberculose, je crois. Et en fait, ses parents ont brûlé toute sa correspondance, tous ses textes. Et seuls 10 textes ont survécu de sa création, en fait, et des textes qu'il a écrits à la fin de sa vie. Enfin, malheureusement, il avait 30 ans. C'est un peu dommage de dire ça, mais... Et ces textes ont été sauvés par Valérie Larbaud et Léon Paul Fargue, qui ont réussi à les faire publier. Il n'a que 10 textes, il appelait ça des cartes postales, et il était donc, il travaillait dans les corps consulaires, les corps d'ambassade, et il écrivait sur la vie des colonies avec beaucoup de flegme et d'ironie. C'est des poèmes qui sont très pince sans rire, c'est très très drôle. Frédéric Vitou de l'Académie française lui a consacré une biographie, exactement.
Oui,
et j'attire aussi l'attention des auditeurs sur un livre qui a été illustré par Jérôme Loustal et qui est sorti aux éditions Martin de Halleux. Très très beau livre, très beau papier, très beau dessin. Pour découvrir l'œuvre d'Henri Levé, c'est magnifique, et surtout, alors que c'est un poète que peu de gens connaissent et qui crée, on va dire, des happy few autour de lui. Et il y a dizaines d'années de ça, je discutais dans le salon de ma grand-mère avec mon grand-oncle qui vivait à Toulouse, lui, qui était un mec très lettré, très, très fin, docteur en droit. beaucoup de lettres, et puis on se rend compte qu'on connaît tous les deux Henri Levé. Donc c'était une connexion incroyable, parce que qui connaît ce poète
Ça arrive parfois, peut,
voilà, voilà, et c'était formidable.
Comme ça.
Donc c'est à sa mémoire que j'ai, voilà, que j'ai mis en musique les trois cartes postales qu'il y a sur ce disque, et les sept autres sont en cours de travail.
Puis dernier de la bande, rapidement, moins connu, alors beaucoup plus proche de nous, puisqu'il est mort en 1993, c'est Henri Thomas.
Alors là, je n'ai malheureusement pas d'informations, parce que je suis tombé dans une anthologie sur un poème qui m'a plu. J'ai acheté, alors je ne sais pas si c'est ses œuvres complètes, mais ça s'appelle Poésie chez Gallimard, donc je pense qu'il y a tout. Il a écrit des poèmes sur la Corse aussi. Mais moi, ce qui m'a frappé quand j'ai parcouru le recueil, c'est ce duo J'hésite entre Casse-couille et Casse-pied, qui sont deux personnages emblématiques. C'est très, très drôle. Et là, je m'étais dit, mais là, il faudrait faire un duo. Alors, c'est quelque chose que j'ai écrit de mémoire. On devait être en 2016. Enfin, c'est pas d'hier. Et il se trouve que quand j'ai constitué l'équipe, j'avais une basse et un baryton parfait pour ce duo. Et donc, on l'a fait. C'était très, très drôle. Ouais.
Eh bien, nous allons écouter un autre extrait du CD Les Beaux Soirs à l'Anguille qui va nous permettre de découvrir à la fois la poésie d'Henri Levé et la belle voix de Célian d'Auvigny. Lui, il est bien d'aujourd'hui, même s'il a un nom de poète du 19e siècle. C'est un excellent baryton. Cette mélodie et ce poème ont pour titre Outwards.
L'armand béique des messageries maritimes file 14 nœuds sur l'océan Indien. Le soleil se couche en des confitures de crime dans cette mer plate comme avec la main. Miss Roseway qui se rend à Adélaïde vers le sweet home au fiancé australien. Miss Roseway, hélas, n'a cure de mon spleen, sa lorgnette sur le lac d'Ivre au loin. Je vais me préparer sans entrain pour la fête de ce soir sur le pont. Lampion, danse, romance. Je dois accompagner Miss Roseway qui quête fort gentiment pour les familles des marins naufragés.
Outwards, qu'on peut traduire par « en dehors » ou « au dehors », poème de Henri Levé sur lequel vous avez composé cette mélodie, chantée par Célian d'Auvigny, lui aussi accompagné au piano par Damaris Alcunar. Ça m'amène à vous demander qui sont les artistes, les musiciens avec lesquels vous avez collaboré sur ce CD.
Alors, tout seigneur, tout honneur, commençons par la pianiste qui est présente sur toutes les pistes. Damaris Alcunar, c'est une amie et que je connais depuis une douzaine d'années maintenant. Et c'est avec elle que je travaille depuis le début sur ce projet. Elle est excellente comme accompagnatrice, c'est son métier, hein, elle est accompagnatrice au conservatoire. C'est quelqu'un en qui on peut vraiment avoir confiance sur le plan pianistique et elle accompagne très bien les chanteurs. Ensuite, au niveau des chanteuses, il y a Agnès Denelin que j'ai également connue au conservatoire de Bayonne. Alors, elle qui est chanteuse et aussi chef de chœur, qui a fait ses études à Bayonne et au conservatoire supérieur de Saint-Sébastien. Elle est originaire du Gers. La deuxième chanteuse, Jennifer Chenoury, c'est la Benjamine de l'équipe, elle va avoir 30 ans et elle est encore en études, elle passe son DEM de chant lyrique cette année à Bayonne. Et pour les messieurs, donc Célian d'Auvigny, qui lui vient de Paris, formation CRR de Paris et aussi Cours Florent, que je ne connaissais pas, que j'ai rencontré en passant plusieurs coups de fil à un tel qui m'a renvoyé à un tel, qui m'a renvoyé à un tel, etc. Et donc qui a été emballé par le projet et qui a rejoint l'équipe. Et enfin, la basse, Jesús María García Jejula, qui est un chanteur du côté Pays Basque Sud de Saint-Sébastien, et qui lui est chanteur baroque, il a chanté sur beaucoup de festivals en Europe, il a fait beaucoup de scènes, il a fait des enregistrements, peut-être même de la télé aussi. C'est quelqu'un qui est plus âgé que nous et qui lui aussi s'est montré emballé par le projet. Donc voilà l'équipe des musiciens. Et puis un petit mot aussi pour la conception du CD parce qu'on est content de l'objet qu'on a fait. Les photos sont signées Audrey Chaplet, une photographe de Bordeaux, qui avait travaillé avec moi aussi sur mon premier disque. Et l'infographie a été faite par un infographiste néerlandais qui s'appelle Roger Zuiderveld, qui est un ami de Mathieu, un contact de Mathieu. Et c'est lui qui a fait cet objet avec tous les textes dans le livret, les photos, le digipack, etc.
Cet objet, comme vous dites, qui est magnifique, vraiment très très belle réussite pour ce label Bellary, dont nous avons le directeur. Donc je vais lui donner la parole. Parlez-nous un peu de votre label et des autres compositions, compositeurs, chanteurs, musiciens qu'on peut y trouver.
Alors Bellary est un label qui est né en 2018 suite à une... Alors j'ai une vie, ma vie antérieure était une vie de musicien. De variété, j'ai fait des études classiques, mais j'ai surtout fait ma carrière dans la variété. Et on habite donc un territoire qui n'est pas forcément très bien représenté au niveau de sa créativité. On fait partie donc du sud de la France, du Pays Basque transfrontalier, donc le sud, que ce soit l'Aquitaine ou l'Occitanie. On regarde deux grandes villes, on regarde Bordeaux et Toulouse, qui ont leur structure de développement de
propre.
Voilà. Au niveau espagnol, c'est pareil. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau espagnol, très très vite, via San Sebastián ou Bilbao, on est projeté facilement sur des diffusions nationales en Espagne, ce qui n'est pas le cas quand on habite à Bayonne. Et donc, l'idée est née de créer ce label pour accompagner les créateurs de notre territoire. Alors, au départ, en langue basque, sur une ligne éditoriale assez ouverte qui va de la musique contemporaine à la world music, aux musiques du monde, on va dire, en balayant la pop music et les thèmes actuels, mais aussi la musique classique. Donc, ça va faire 8 ans maintenant, il y a une vingtaine d'albums qui sont parus. Un quart vient de la musique classique, je crois que c'est le 4e, 5e. Voilà, en gros.
Et vous êtes basé à Corbeau-les-Bains,
oui.
Chez Edmond-Rostand.
Absolument.
Voilà une très belle figure tutélaire, je trouve, pour un label musical et pour un label qui publie de la mélodie française. Alors, il y a des mélodies qui sont composées, bon, sur des thèmes, on va dire, peut-être très classiques, mais il y a quelque chose qui est jazzy aussi. On trouve des thèmes jazzy,
oui,
ragtime, un peu.
Alors, un stride, jazz, exactement. Stride. Parce que le ragtime est vraiment binaire et claudiquant. Là, on est sur du ternaire, donc c'est du stride, donc un jazz un petit peu plus tardif, ouais. Années 30, on va dire. Alors, j'ai quelques influences jazz, c'est pas ma musique principale, mais j'en écoute quand même et j'en joue un peu. Et puis, ma mère était grande fan de jazz et danseuse de claquettes. Donc c'est des sonorités comme ça à la maison. C'est pas un parti pris de dire je vais faire un truc jazzy ou pas. Ça vient
parce que ça tombe bien justement sur les textes, certains textes en tout cas.
Voilà, ça, quand ça s'y prête, l'inspiration est bienvenue.
Eh bien, on va s'en rendre compte parce qu'on va finir en musique évidemment cette partie consacrée au CD Les Beaux Soirs à Langui, et je vais vous faire entendre une mélodie composée sur un rythme jazzy. Voici Balade en l'honneur de la famille Trouloyau, mélodie composée sur un texte de Georges Forest. Thank you. Ballade en l'honneur de la famille Trouloyau, mélodie composée par Thomas Moreau sur un texte de Georges Forest, chanté par Agnès Denelin, accompagnée par Damaris Alcunar. Alors vous vouliez encore préciser quelque chose?
Oui, que sur les 19 mélodies que comporte le disque, 11 ont été publiées en recueil aux éditions À Cœur Joie sous le titre Mélodie. Voilà, si d'aucuns veulent consulter les partitions, alors bon, il y en a 11 sur 19, il faut voilà, bien choisir lesquelles, mais il y a une publication. Oui.
Mais voilà, pour ce CD, Les Beaux Soirs à Langui, 19 mélodies composées par Thomas Moreau, parues sous le label Bellary, qui fait du très beau travail. Je le redis, la pochette est vraiment très réussie.
Merci.
Je recommande ce disque. Serge Chosy, il nous reste un concert à annoncer, le prochain concert de la saison des Arts Renaissants. Il a lieu le mardi 3 décembre à 20h à l'église Saint-Jérôme de Toulouse, où se produisent l'ensemble Il Gardellino et le joueur d'harmonica de verre Thomas Bloch. C'est vraiment une des curiosités de la saison, en raison de la présence de cet instrument, bien sûr.
Oui, exactement. Alors, l'ensemble Il Gardellino, c'est Jan de Wien à la flûte, Marcel Ponzel au hautbois, Johanna Huska au violon, Kat de Kock à l'alto et Ira Givol au violoncelle. Ça, c'est l'ensemble instrumental. Et ils ont comme soliste ce soir-là un joueur de glace harmonica de verre, qui s'appelle Thomas Bloch. Et c'est vraiment un interprète majeur d'instruments rares. Il ne joue pas que de cet instrument.
Oui, absolument.
Il joue de...
Marteneau, waterphone.
Voilà, waterphone, cristal bâché, etc.
Oui.
Donc, voilà quel est le programme de ce concert du 3 décembre de Mozart. Il y aura l'adagio en do majeur pour glace harmonica, puis un adagio et rondo pour flûte au bois, alto, violoncelle et glace harmonica, et puis deux autres œuvres, un adagio pour cor anglais, deux violons et violoncelle, et un quatuor en ré majeur pour flûte, violon, alto et violoncelle. Et puis un quatuor en do majeur pour hautbois, violon, alto et violoncelle, d'un compositeur que j'avoue découvrir, Hébert Philippe Adrien Lehmans.
Oui, 18e siècle.
Et puis Johann Christian Bach, lui qui est connu, fils de Jean-Sébastien.
Le Bach de Londres.
Voilà, pour un quintet en ré majeur pour flûte au bois, violon, alto et violoncelle.
Ouais. Donc Thomas Bloch et l'ensemble Il Gardellino sont en concert le mardi 3 décembre à 20h à l'église Saint-Jérôme. La billetterie est en ligne sur le site www.art-renaissant.fr. Je signale d'autre part que la mezzo-soprano Adèle Charvet chante lors d'un midi du Capitole, ce mercredi 27 novembre à 12h30, et que le jeudi 28 est donné au même endroit à 20h, la dernière représentation de Voyage d'automne, l'opéra de Bruno Mantovani. Vous pouvez réserver et acheter vos places sur le site www.opéra.toulouse.fr. Je rappelle aussi les deux concerts de l'Orchestre National du Capitole à la Lalograin. C'est samedi 30 novembre à 20h et dimanche 1er décembre à 16h, où il accompagne la projection du film Le Dictateur de Charlie Chaplin sous la direction de Timothy Brock. Les réservations et l'achat des billets sont à faire sur le site www.onct.toulouse.fr. Et je rappelle enfin que le CD de Mélodie, Les Beaux Soirs à Langui, composé par Thomas Moreau, est paru sous le label Bellary et que vous pouvez vous le procurer sur le site www.bellary.com. Thomas Moreau a aussi son site internet www.thomasmoreaumusique.fr. Tous mes remerciements à Serge Chosy qui a co-animé cette émission à mes côtés et à Thomas Moreau et Mathieu Arambourg d'être venus du Pays Basque pour nous présenter leur disque. Merci également à Christophe Aubry qui a réalisé ce numéro. Podcast disponible et téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci à nos auditeurs pour leur fidélité à cette émission. Très bonne semaine musicale à tous.